Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 21 mai 1996, les restes des 7 moines de Tibirine étaient rendus par leurs ravisseurs. Ils avaient été enlevés 2 mois auparavant. Aujourd'hui encore, le mystère n'est pas totalement élucidé. Fadila Semaï a choisi de s'intéresser à l'une des victimes, le prieur du monastère, Christian de Chergé, dont le parcours personnel et mystique a été profondément marqué par une amitié nouée en 1959 avec un garde champêtre algérien dans l'arrière-pays algérien. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orion Hebdo sur RFI.
Voici la nuit, l'immense nuit des origines.
En mars 1996, 7 moines trappistes de Notre-Dame de l'Atlas à Tibérine sont enlevés puis séquestrés. Nous sommes alors en pleine guerre civile algérienne. Leurs têtes sont finalement rendues le 21 mai suivant, c'est-à-dire il y a tout juste 20 ans. Bonjour Fadila Semaï.
Bonjour.
Vous publiez chez Albin Michel L'ami parti devant, un récit qui met en scène l'un des moines de Notre-Dame de l'Atlas, Christian de Chergé, prieur du monastère de Tibérine. Mais ce n'est pas cette histoire que vous racontez. Vous intéressez en réalité à un événement beaucoup plus ancien qui a fortement influencé Christian de Chergé. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'une rencontre avec un Algérien, garde champêtre, musulman, que Christian de Chergé a rencontré pendant la guerre d'Algérie en 59. Et une amitié est née, une amitié profonde est née entre le prieur, celui qui allait devenir le prieur de Tibérine, et cet homme. Et cette amitié a été si profonde et si décisive qu'elle a influencé la vocation religieuse de Christian de Chergé au point qu'il a souhaité revenir vivre sa vie de religieux en Algérie.
Alors, en 59, Christian de Chergé, c'est un jeune officier français,
sous-lieutenant.
Et que fait-il alors? Où rencontre-t-il Mohamed?
Alors, Christian de Chergé est sous-lieutenant dans la commune rurale de Aïn Saïd, qui existe toujours. Et il rencontre Mohamed, le garde champêtre, parce que Christian de Chergé fait partie des sections administratives spécialisées. Donc, ce sont des sections qui ont un rôle, entre guillemets, social avec les autochtones. Et il va rencontrer Mohamed dans ce cadre-là. Et ensemble, ils vont parcourir le Djebel pour recenser, pour dresser des procès-verbaux. Et c'est comme ça que ces deux hommes, pendant 4 mois et seulement 4 mois, vont vivre quelque chose d'assez impressionnant, puisque cette rencontre, elle souffle encore aujourd'hui sur le monde, sur Tibérine, au moment où je vous parle.
Ce sont deux êtres qui, a priori, n'étaient pas faits pour se rencontrer. Ils n'ont pas le même âge et ils ne sont pas de la même terre. Comment se fait-il ?
Ah non, ils n'avaient a priori rien pour se rencontrer, puisque Mohamed avait 47 ans, Christian de Chergé avait 22 ans. Mohamed était un homme illettré, Christian de Chergé, comme on le sait, était un jeune aristocrate. Rien ne prédisposait ces deux hommes. Et ils ont été capables de transcender toute chose, la terre, la guerre, la religion, la condition et même leur culture. Donc je trouve que cette amitié dit beaucoup sur le défi auquel nous sommes appelés aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire un défi de l'alliance, puisqu'on voit bien que tout se morcelle, tout se divise et que notre grand axe aujourd'hui de vie les uns avec les autres, c'est un axe qui souhaite ou dominer ou posséder. Et c'est radicalement l'inverse que ces deux hommes ont vécu. Pas de fracture, pas d'opposition, le respect de l'autre et l'envie de se connaître. Donc c'est un dépassement de soi, un dépassement de sa peur. Mais il faut quand même ajouter quelque chose de très important. Christian et Mohamed, s'ils ont été capables de vivre ça, c'est parce qu'ils se sont laissés agir depuis la profondeur de leur être. Et c'était des hommes habités d'une grande foi et d'un grand respect de leur spiritualité propre.
Et est-ce que vous avez eu des difficultés à reconstituer cette histoire si particulière? Comment avez-vous fait? Qui vous a aidé? Vous avez rencontré sur place des gens qui vous ont conduit à certains endroits, là où habitait Mohamed par exemple?
Oui, alors évidemment, le voyage en Algérie, c'est limité dans le temps. Le travail que j'ai accompli, ça a pris 6 ans de ma vie. Alors évidemment, ça a pris 6 ans de ma vie parce que cette histoire ne m'a pas laissé indemne. Christian et Mohamed, je dirais que c'est eux qui m'ont saisie dans un premier temps. J'ai véritablement été saisie par cette amitié. J'avais évidemment quand même repéré quelques personnes pour pouvoir un petit peu avancer, mais d'une certaine manière, j'ai fait quand même un grand saut dans l'inconnu en Algérie. Parce que Mohamed, personne ne le connaissait, ni les Algériens, ni les Français. Personne ne connaissait Mohamed et le visage de Mohamed, parce qu'il y a quelque chose de très important. Je tenais absolument à ce que cet homme ait un visage. Pourquoi ? Parce que j'avais été un petit peu heurtée quand le film « Des hommes et des dieux » était sorti, pour lequel j'ai un grand respect.
De Xavier Beauvoir.
De Xavier Beauvoir, oui. Et simplement, je me disais, c'est étonnant, tout le monde regarde Tibérine comme une image arrêtée. Ce film-là, ou le fait divers, c'est-à-dire l'assassinat des moines. Et moi, ce que je voulais, c'était retourner à la source des choses pour trouver dans les petites choses la transparence des événements. Je me suis dit, les événements ont une transparence, ils ont quelque chose à nous dire et je veux retourner à la source parce que quelque chose est voilé. Il y a une partie de l'histoire qui reste encore dans l'ombre. Et dans cette partie de l'histoire, il y avait le visage de Mohamed que nous ne connaissions pas et dont on parlait quasiment pas.
Alors, qu'ont-ils partagé ces deux hommes pendant ces finalement très peu de temps, 4 mois avant que Mohamed ne soit tué à son tour ?
Ils ont partagé une humanité. Christian le disait, je vais encore forcément mal reproduire son propos, mais il disait, lui il était musulman, il était naturel qu'il me parle du Coran. Moi j'étais chrétien, il était naturel que je lui parle du Christ. Et malgré ce qu'il se passait autour de nous, nous avions Dieu pour horizon au-dessus de la mêlée. Moi c'est ça qui me touche, c'est que ces deux hommes ont été capables de tout transcender parce qu'ils étaient habités de cette transcendance. C'est ça qu'il y avait ce mystère divin qui circulait entre eux. Ça veut dire que ça n'est pas uniquement du côté de la bonne volonté de ces deux hommes, c'était aussi du côté du mystère que quelque chose se passait. Et je vais vous faire un aveu, quand j'ai terminé l'écriture du livre, il y a quelque chose du mystère qui restait pour moi. Parce que qu'est-ce que j'avais pu observer ? C'est que chaque détail était presque inscrit dans l'histoire de Tibérine 50 ans. Il y a déjà 56 ans, puisque Christian et Mohamed se sont rencontrés en 1959. Et des petits détails m'ont montré qu'une grande histoire était déjà en train de s'écrire. Tibérine, c'est l'histoire de deux hommes qui, habités de la transcendance, ont été capables de tout dépasser de différent.
Alors justement, vous êtes allé à Tibérine, Fadila Semaï, et quelles sont les traces de cette rencontre ? Qu'est-ce qu'on peut voir dans Tibérine qui montre que cette rencontre a eu lieu bien longtemps avant ?
Les traces qui montrent que la rencontre a eu lieu bien avant, j'en ai pas tellement vu dans le monastère. Mais les conséquences de cette rencontre, elles existent bel et bien dans le monastère. Il y a deux choses qui m'ont particulièrement émue. J'ai vu sur un des murs du monastère de Tibérine une grande carte du monde. Et sur cette carte du monde, il y avait des fils ou des flèches, je ne sais plus, mais je crois que ce sont des fils qui montraient tous les pays du monde qui étaient venus vers Tibérine. Et il y avait l'Indonésie, Philippines, États-Unis. Enfin, ça vient du monde entier vers ce lieu. Donc ça dit quelque chose. Et ça dit quelque chose à notre monde aujourd'hui. Ça veut dire que les gens ont soif de cette union, de cette unité. Et qu'elle soit sous une forme humaniste, laïque, spirituelle, les gens ont soif d'alliance. Les gens n'en peuvent plus de ces séparations qui sont en train de nous amener dans des états d'être qui sont même inquiétants. Et donc, ça, c'est le premier détail qui m'a frappée. Et évidemment, le second, c'est quand même la salle du Ribat. Quand je suis rentrée dans cette salle, je me suis assise sur un canapé. Il y avait une biographie de Monseigneur Duval écrite par Christine Rey. Il y avait le portrait du Cheikh Alaoui, donc qui est l'arrière-grand-père du Cheikh Khaled Ben Tounes, qui est l'actuel guide de la confrérie Alaouia, celle qui a toujours été en lien avec les moines de Tibérine. Donc on voit qu'il y a du souffle. Et ça, c'est très émouvant. Ça veut dire l'esprit de Tibérine, la rencontre entre Christian de Chergé et Mohamed, effectivement, elle a soufflé très loin. Et une autre chose qui m'a frappée, je me suis dit, mais on est loin d'avoir encore compris ce que Tibérine veut nous dire. Et là, je ne parle pas de l'aspect judiciaire, politique, etc. Je parle véritablement de l'aspect de la profondeur. Je pense que nous, peut-être que d'autres personnes écriront encore et iront encore plus profondément et encore plus loin que ce que je n'ai fait sur la rencontre entre Christian de Chergé et Mohamed.
Finalement, quelle leçon nous laisse Christian de Chergé et surtout cette rencontre avec Mohamed il y a 56 ans ?
Eh ben moi, je dirais que la leçon qu'il nous laisse, c'est que nous sommes une humanité commune, nous avons un corps commun, une humanité commune, que la vérité, si tant est que quelqu'un oserait dire qu'il a la vérité sur le plan spirituel, eh bien, eux nous disent que la vérité, c'est un dépassement de la forme sans nier sa forme. Et donc, c'est au bout du compte une rencontre avec l'autre, très différent, très unique, et que ça ne peut pas se faire de l'extérieur, ça ne peut se faire qu'à partir d'un mouvement intérieur, habité quand même d'un certain mystère, et qui va vers l'autre les bras ouverts.
L'actualité nous montre que tout le monde n'est pas d'accord avec cette façon de voir les choses, hélas.
Hélas, mais cependant, moi très souvent je dis, il n'y a pas un monde éclairé et il n'y a pas un monde obscur. Nous sommes tous individuellement convoqués. Tous nous sommes appelés, pas à nous émerveiller devant une amitié qui est effectivement exceptionnelle, mais elle nous appelle à nous transformer et à nous dire quelque chose du mystère que nous portons peut circuler entre nous et rendre la rencontre possible avec l'autre.
Merci Fadila Semaï, auteur de « L'ami parti devant », publié chez Albin Michel.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchantier et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la disparition de l'avion d'Égypte jeudi matin en Méditerranée orientale fait évidemment la une de la presse arabe.
Oui, les titres de la presse égyptienne sont révélateurs. Calamité, les Égyptiens sous le choc, le terrorisme principal accusé. Des journaux qui reflètent en quelque sorte le désarroi des Égyptiens face à ceux qu'ils considèrent comme des coups répétés du mauvais sort. Les journaux dressent aussi le portrait des victimes égyptiennes et arabes avec des cas poignants comme cette Saoudienne partie en France pour soigner son cancer et qui a disparu avec l'avion avant de fêter sa guérison. Et puis il y a par exemple le deuil du village égyptien de Mit Badr Halawa dans le Delta, un village dans le quart des habitants séjournent en France où ils sont spécialisés dans le marché aux légumes. Pour certains éditorialistes, l'Égypte comme la France ont été frappés par cet attentat à cause de leur combat contre les extrémistes de l'État islamique.
Michel Paul, cette catastrophe est également la une de la presse israélienne.
Et à en croire la presse israélienne, il ne fait pas de doute que le crash de l'Airbus 320 d'Égypte soit le résultat d'un acte de terrorisme. Yedioth Ahronoth donne 8 scénarios possibles et l'hypothèse de l'accident arrive en dernière position. Le grand titre du journal sur cette tragédie, une bombe à bord du vol en provenance de Paris, et une des hypothèses, toujours selon Yedioth, est que la bombe ait été placée dans l'avion à l'aéroport Charles de Gaulle. Un commentateur du quotidien Israël Hayom souligne qu'en l'espace de moins d'un an, c'est le troisième cas de terrorisme aérien lié à l'Égypte. La menace se fait de plus en plus pressante souligne l'auteur de l'article.
Alors dans la presse cette semaine, c'est surtout la politique, Michel, qui retient l'attention avec l'élargissement prévu de la coalition gouvernementale vers la droite.
Une manœuvre de diversion brillante, font remarquer les journaux. Netanyahou a flirté avec la gauche pour finalement arriver à un accord avec la droite. Le parti travailliste et surtout son leader Yitzhak Herzog ont été ridiculisés. Un commentateur a cette formule. Normalement, c'est l'opposition qui tente de faire tomber le gouvernement. Mais dans ce cas, c'est Netanyahou qui, lui, a réussi à faire tomber l'opposition. Israel Hayom, le journal proche du pouvoir, publie un sondage. La majorité des Israéliens est en faveur de l'entrée de l'extrême droite au sein de la coalition. 43% des personnes interrogées sont pour l'entrée du parti russophone Israël Beteinu au gouvernement. 46% s'opposent à ce que son leader, Avigdor Lieberman, occupe le poste de ministre de la Défense. Les médias se penchent aussi sur la démission du ministre déchu. Moshe Yaalon quitte la vie politique car il ne veut plus se fier en Binyamin Netanyahou. À ses dires, le gouvernement de droite numéro 1, titre un quotidien.
Politique toujours, Michel, dans tous les journaux, portrait et analyse du futur ministre de la Défense.
Oui, c'est le personnage de la semaine, Avigdor Lieberman, qui jusqu'au début de la semaine critiquait de manière extrême le Premier ministre Netanyahou, est donc en route vers la coalition. Un homme qui ne mâche pas ses mots, il a proposé de bombarder le barrage d'Assouan, et pas plus tard que la semaine dernière, a proposé à Ismaïl Haniyeh, le leader du Hamas à Gaza, de creuser sa propre tombe. Beaucoup de paroles, titre un éditorialiste. Et on risque d'être surpris, affirme de son côté un chroniqueur. Pas de raison de paniquer, dit un autre commentateur. Curieusement, Eric, la presse tente de minimiser la portée de cette nomination qui doit être effective la semaine prochaine. Et deux sujets dominent les articles. Comment Lieberman peut-il être à la tête de l'armée israélienne? Et aussi la revendication de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il demande la peine de mort pour les terroristes.
Alexandre Bouchanti, selon la presse, les mouvements islamistes perdraient encore du terrain en Syrie.
Oui, des mouvements qui ont passé leur temps, selon la presse, à s'entretuer pour des gains bassement matériels. Et ainsi, ils ont laissé la possibilité pour les forces du régime de lancer une offensive qui a permis de récupérer le sud de la Rota de Damas. Alors, une région stratégique, mais aussi le grenier à blé de la Syrie. Le début d'une grande offensive selon la presse arabe, une offensive qui serait préparée par plusieurs généraux iraniens et des renforts du Hezbollah. Le tout sera accompli sous le couvert de l'aviation russe.
Et puis Alexandre, des journaux arabes s'intéressent à la retraite d'une actrice de films pornographiques.
Oui, Mia Khalifa, une Libanaise qui avait eu un grand succès grâce à ses grands attributs dans le porno américain, a déclaré qu'elle allait se retirer du business. Mais la presse se demande s'il ne s'agit pas, comme dans le cas de beaucoup d'acteurs et actrices, d'un effet d'annonce et qu'elle reprendra le lendemain, juste le temps de prendre une petite vacance.
Michel Paul, on reparle en Israël d'une drôle d'affaire, c'est l'affaire Mimran.
Oui, et à la une de Haaretz, un article repris par plusieurs autres journaux. Arnaud Mimran, le milliardaire français, auteur de « La fraude du siècle », reconnaît avoir fait don d'un million d'euros pour financer la campagne électorale de Netanyahou. C'est faux, affirme le Premier ministre israélien. Mais Eric, les journaux ici parlent de la French Connection.
Pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Eh bien, c'est la photo de la ministre israélienne de la Culture, Miri Regev, un personnage haut en couleur et très controversé, général de réserve de l'armée israélienne, et on la voit sur le tapis rouge du Festival de Cannes.
Dont le palmarès sera donné demain. Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal. La RMN.